RFI Soir.
Édition spéciale.
Romain Ozoui.
Et suite de notre édition spéciale jusqu'à 19h, temps universel sur Radio France Internationale, après la condamnation évidemment de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics, condamnation à 5 ans d'inéligibilité, 4 ans de prison, dont 2 fermes, a priori assorties d'un bracelet électronique, mais surtout Marine Le Pen qui s'est exprimée il y a quelques instants, et on y revient évidemment sur RFI. Et on va écouter d'ailleurs la chef de file des députés Rassemblement National. On a commencé à analyser ses premières déclarations. Marine Le Pen qui ne veut pas se retirer évidemment de la vie politique, elle l'a dit, et elle a dénoncé un jour funeste. On écoute Marine Le Pen.
La motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République. Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025, le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, où des millions de Français vont être privés par un juge de première instance, sans recours possible, de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Mais ça devrait scandaliser objectivement tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à l'état de droit.
Voilà, Marine Le Pen ce soir donc sur TF1, il y a quelques instants. Gaëtan Dussaucé, député des Vosges, porte-parole du Rassemblement National. On vous retrouve comme prévu, et Aurélien Devernois, chef adjoint du service politique de RFI, vous interrogez sur le caractère accablant démontré par les juges, évidemment du jugement ce matin, mais même du réquisitoire quelques temps plus tôt.
Oui, mais si vous voulez, sur ce dossier-là, on a le droit de plaider notre innocence, et on a le droit de considérer sur le fond de dossier que nous sommes en désaccord avec la vision qui est portée par le Parlement européen et par les juges dans cette affaire. Cette affaire, elle a été initiée il y a 10 ans, désormais, il y a plus de 10 ans, par 2 socialistes, un Allemand, Martin Schulz, et une Française, Christiane Taubira, ministre de la Justice à l'époque, et qui ont considéré que des collaborateurs parlementaires, qu'ils soient accrédités au Parlement européen ou qu'ils soient détachés dans les circonscriptions de leurs élus, n'avaient pas le droit de faire de la politique. Et désolé, mais nous, on n'est pas là pour être les fonctionnaires du Parlement européen. Et évidemment, quand un député européen a une action politique sur le terrain pour aller dire, justement, parce qu'il est une vigie citoyenne excessivement nécessaire au sein du Parlement européen, et pour aller dire aux Français ce qu'il s'y passe, et qu'un collaborateur l'accompagne pour cela, eh bien, évidemment, il fait son travail de collaborateur parce qu'il est le collaborateur d'un député européen d'opposition. Alors, je comprends bien que les fonctionnaires du Parlement européen, de la Commission européenne, ne l'entendent pas ainsi. Mais c'est notre liberté et c'est notre innocence de le défendre jusqu'au bout.
Merci Gaëtan Dussaucé, député des Vosges, porte-parole du Rassemblement National. Vous restez en ligne avec nous. On va à présent, car je te disais, évidemment, cette affaire, elle dépasse le cadre de l'Hexagone. Elle touche évidemment à l'Europe. Il s'agit d'eurodéputés. Il y a eu des réactions outre-Atlantique également. Bonsoir Guillaume Nodin.
Bonsoir à toutes et à tous.
Voilà, envoyé spécial permanent de RFI à Washington. Réaction notamment d'Elon Musk, qui a dénoncé un abus du système judiciaire.
Oui, Elon Musk, principal allié de Donald Trump dans les milieux d'affaires et sur les réseaux sociaux, il explique dans une publication sur sa plateforme X que lorsque la gauche radicale ne peut pas gagner par le biais d'un vote démocratique, elle abuse du système juridique pour emprisonner ses opposants. C'est ce qu'ils appliquent partout dans le monde, ajoute le milliardaire. Et si Donald Trump ne s'est pas encore exprimé, peut-être va-t-il le faire aujourd'hui, son fils Don Jr. s'indigne que la France envoie Le Pen en prison et lui interdise de se présenter. Et il se demande si c'est une façon de démontrer que J.D. Vance avait raison sur toute la ligne. C'est une allusion au discours du vice-président américain lors de la conférence de Munich sur la sécurité au mois de février dernier. J.D. Vance avait accusé l'Europe et ses dirigeants de limiter la liberté d'expression des points de vue alternatifs, comme ceux des partis d'extrême droite. L'idéologue proche de Donald Trump, Steve Bannon, dénonce des accusations fabriquées de toutes pièces. Il était déjà venu en France pour soutenir Marine Le Pen. À cette occasion, il s'était fendu d'un salut bras tendu, comme lors de la dernière grand-messe des conservateurs américains en février à Washington. C'est ce geste qui avait conduit Jordan Bardella, président du Rassemblement National, à annuler sa participation à cette grand-messe, inquiet de l'impopularité des milieux trumpistes en France.
Eh bien, merci Guillaume Nodin en direct de Washington. Virginie Martin, on vous retrouve. Hein. Vous êtes professeure chercheuse à Cage Business School. Quelle peut être la réaction en France? Comment ça peut être perçu justement ces réactions aux États-Unis, notamment d'Elon Musk? Est-ce que c'est un atout pour le Rassemblement National?
Il ne me semble pas que ce soit un atout. C'est pas un atout. Peut-être ça pouvait être un atout, vous voyez, à la fin de l'année dernière. Mais les plus trumpistes aujourd'hui en France commencent à s'inquiéter quand même de la dérive trumpiste et à la mode Elon Musk aux États-Unis. Vous voyez, la France a quand même pas cet état d'esprit, n'est quand même pas tout à fait prête à une démocratie illibérale. Or, la promesse de Musk, quelque part, c'est un peu ça. Vance, c'est pareil, etc. Donc, et vous voyez, on a beaucoup vu Éric Zemmour et Sarah Knafo proches de ces milieux trumpistes, beaucoup moins Marine Le Pen, et votre reporter d'ailleurs l'a rappelé à propos de Jordan Bardella. Donc, en plus, ça contrevient, si vous voulez, ça vient à l'encontre de la stratégie de normalisation, de notabilisation que Marine Le Pen a absolument voulu mettre en œuvre. Et donc, pour devenir un parti de gouvernement au sens plein du terme, au sens français du terme, ce ne sont pas les meilleurs soutiens. Et en plus, si vous voulez, ça la remet dans un espèce de petit coin comme ça à l'extrême droite, avec des gens très excessifs qui aiment effectivement ce côté libertarien, illibéral, comme je le disais. Et ce n'est pas très bon pour revenir au centre du jeu politique français. Donc, il y a peut-être des soutiens qui peuvent faire plaisir de manière éphémère, mais dont on peut se passer, je pense.
Autre soutien, la Russie, je ne sais pas si on peut parler de soutien, mais on connaît les liens qui ont été évoqués, évidemment, entre la Russie et Marine Le Pen, les proximités par le passé. Bonsoir Jean-Didier Revoin.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de RFI à Moscou. On continue notre tour des correspondants. On était à Washington il y a quelques instants et Virginie Martin s'interrogeait finalement sur un soutien peut-être un peu trop lourd. Le Kremlin a réagi. Il a déploré une violation des normes démocratiques avec le jugement et la condamnation de Marine Le Pen ce lundi.
Oui, alors effectivement, et puis il n'a fallu que quelques minutes après l'annonce de cette condamnation pour que le Kremlin se fende de sa réaction, ce qui donnait effectivement l'impression que les autorités russes venaient un peu à la rescousse du seul dirigeant de parti politique français qui a rencontré Vladimir Poutine en personne, alors qu'aucune banque européenne n'acceptait à l'époque de financer le Front National, devenu depuis Rassemblement National. Alors c'est répondant à la question d'un journaliste que le porte-parole a estimé qu'en Occident, la violation des normes démocratiques était un phénomène croissant et qu'on ne se gênait pas dans les capitales européennes pour déborder du cadre démocratique dans les processus politiques. Alors c'est une façon pour le Kremlin de répondre par la critique aux multiples attaques dont le système politique russe est victime de la part des chancelleries occidentales depuis de longues années, et puis aussi d'adresser une pique à l'Élysée qui ne se prive pas de critiquer la Russie, qualifiée récemment de menace existentielle par Emmanuel Macron. Dans ces conditions, et comme à son habitude, alors Moscou pointe les fonctionnements démocratiques qui suscitent des polémiques, des propos repris par les médias russes, et les journaux télévisés également, qui laissent penser à la population eh bien, que le fonctionnement des démocraties occidentales connaît lui aussi quelques accrocs.
Eh bien, merci beaucoup. Jean-Didier Revoin en direct de Moscou pour Radio France Internationale. Et puis ce mot « je suis marine » qu'a lancé évidemment sur X l'allié de Vladimir Poutine, l'allié hongrois, le Premier ministre Viktor Orban. Alors, comment réagit-on à présent à Bruxelles? Pierre Benazé, vous êtes le correspondant de Radio France Internationale à Bruxelles. Bonsoir à vous, Pierre. Quelles conséquences, évidemment? Alors, il y a ces premières réactions. Je suis pas sûr que ça réagisse et ça fasse réagir déjà du côté de Bruxelles. Mais en tout cas, cette condamnation, les conséquences au Parlement européen, est-ce que ça coupe l'herbe sous le pied des patriotes, le groupe évidemment dont fait partie Marine Le Pen?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est effectivement un coup de tonnerre parce que le Rassemblement National et ses 30 députés, c'est le premier parti de ce groupe, qui est d'ailleurs présidé par Jordan Bardella. Une grande partie des réactions indignées en Europe, ce sont les partenaires du RN au sein du groupe patriote. D'abord, le vice-premier ministre italien, Matteo Salvini, chef de la Lega, qui appelle à pas se laisser intimider. Santiago Abascal, patron de Vox en Espagne, et surtout Geert Wilders, le chef de file du Parti pour la Liberté aux Pays-Bas, qui parle d'une condamnation extrêmement dure. Mais toutes ces réactions, elles servent d'abord à se serrer les coudes. Et le discours qui consiste à accuser la justice de s'appeler la démocratie, c'est un thème politique que ces partis utilisent volontiers ou ont utilisé à l'époque de la victimisation. Et de toute façon, ça leur a plutôt réussi puisque à l'heure actuelle, le groupe patriote, rappelons-le, c'est le troisième en taille au Parlement européen. Il compte d'ailleurs des alliés potentiels chez les conservateurs et réformateurs ou chez Europe des Nations Souveraines. souveraine, des groupes plutôt parents. Et d'ailleurs, certains d'entre eux dans ces groupes-là, comme Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, apportent aussi leur soutien à Marine Le Pen. Lui, il a tweeté « Je suis Marine ». Et ça accroît tout ça, la visibilité du groupe patriote, et donc ça ne devrait pas directement les desservir. Et il faut souligner que dans les groupes opposés aux patriotes, on condamne évidemment la fraude commise par le Front National à l'époque, mais certains estiment aussi qu'en fait, dans son mode de financement légal et normal, le Parlement européen finance des partis qui lui sont fondamentalement hostiles. Donc il y a un vrai problème de fonctionnement. Et puis ça vient s'ajouter au Qatargate, à l'ingérence russe avec Voice of Europe, à l'ingérence commerciale de Huawei le mois dernier. Bref, c'est une pierre supplémentaire dans un édifice déjà un peu surchargé.
Eh bien, merci beaucoup. Pierre Benazé, on appelle à présent Dienaba Diop, qui est porte-parole du Parti Socialiste et députée des Yvelines. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Comment vous réagissez justement alors à ce, entre guillemets, cette double stratégie, pourrait-on dire, de Marine Le Pen qui appelle la justice, je cite, à se hâter, qui met la pression finalement sur les juges pour l'appel évidemment qu'elle a lancé, et en même temps cette même Marine Le Pen sur TF1 il y a quelques instants qui dénonce des pratiques, je cite, réservées aux régimes autoritaires.
Je voudrais juste rappeler à Madame Le Pen qu'il n'y a pas d'immunité élective. La justice a rendu son verdict. Je crois que nous devons toutes et tous le respecter. Et puis, je la renvoie quand même à ses propres commentaires. Et il y a quelques années, lorsque ça ne la concernait pas, où elle demandait à ce qu'il y ait une inéligibilité à vie pour toutes celles et tous ceux qui se seraient enrichis à l'occasion d'un mandat. Et donc, la justice doit passer pour toutes et pour tous. Elle n'est pas au-dessus des lois, elle n'est pas en dessous. Et je l'invite vraiment à respecter l'état de droit. Et c'est juste le reflet qu'il y a bien une séparation des pouvoirs en France entre justement l'exécutif et le législatif.
Ça vous inquiète ce qui a été dit à propos de François Bayrou, le Premier ministre dont l'entourage a dit qu'il avait été troublé. C'est le mot qui a été utilisé aujourd'hui à l'énoncé du jugement. Et le Parti Socialiste, d'ailleurs, dont vous êtes la porte-parole, a appelé à respecter, je cite, l'indépendance de la justice et l'état de droit.
Évidemment, et je réitère, j'invite Monsieur le Premier ministre à respecter l'état de droit et l'indépendance de la justice. Je crois que moi, ce qui me trouble le plus, c'est que un Premier ministre puisse faire ce type de commentaire. Et il faut rappeler à chacun sa place. Nous prenons acte de la décision de justice, comme nous aurions pris acte de n'importe quelle autre décision. Nous appelons à ce que chacun puisse la respecter et que nous laissions justement la justice continuer à faire son travail.
Et on est peut-être à l'aube d'une nouvelle polémique, d'un nouveau sujet, puisque la Cour d'appel de Paris a dénoncé il y a quelques instants les menaces à l'égard des magistrats suite aux réactions au jugement de Marine Le Pen.
Tout mon soutien aux magistrats. Je crois qu'on ne peut pas dire que l'on est un élu de la République et encore moins un parti politique soi-disant de premier plan et pouvoir exercer des menaces sur nos magistrats. C'est un des piliers de notre République et c'est inadmissible.
Aurélien de Vernois.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même un vrai trouble, hein, pour reprendre les mots de François Bayrou, au sein même du gouvernement, parce qu'il faut se rappeler que avant le verdict, certains responsables politiques comme Gérald Darmanin, mais comme François Bayrou déjà, avaient dit que c'était un petit peu compliqué d'imaginer que Marine Le Pen puisse être condamnée à une peine d'inéligibilité qui l'empêcherait de participer à la présidentielle.
En quoi c'est troublant ?
Voilà. Est-ce qu'il y a pas une forme de paradoxe, et en plus il n'y a pas de consensus au sein même du camp présidentiel sur ce sujet. Écoutez, moi j'ai vu des députés aujourd'hui qui n'étaient pas du tout sur cette ligne-là.
Mais bien sûr, écoutez, c'est pas un scoop qu'il n'y ait pas de consensus dans le camp présidentiel. Je vais rappeler deux choses toutes simples. Un, ce sont des personnalités du Rassemblement national qui ont été condamnées. Ce n'est pas le parti. Ça veut dire que le parti peut présenter une candidature. Donc il y a aucun empêchement que ce parti puisse être représenté au présidentiel. Je le rappelle, il n'y a pas d'immunité élective. Et puis trois, je ne vois pas pourquoi il serait troublé. Madame Marine Le Pen doit répondre. C'est injusticiable. Comme les autres, elle doit répondre de ses actes. Maintenant, nous prenons acte de cette décision. Laissons la justice faire. Et je trouve plus que dommageable qu'un ministre de l'Intérieur puisse être troublé par une décision de justice.
Est-ce que, Diana Labadiop, est-ce que ces interrogations concernant l'avenir du RN changent votre stratégie au Parti socialiste?
Absolument pas. Nous, notre stratégie, elle est simple, c'est de répondre aux attentes des Françaises et des Français et d'être en capacité de fournir une alternative justement pour que celles et ceux qui en 2027 devront choisir le président de la République puissent avoir justement un choix de société qui permettent de répondre aux préoccupations de logement, de santé, de sécurité. Ça change rien dans notre stratégie. Vous savez, ce n'était pas les personnalités, ni celle de Marine Le Pen, ni encore moins de qui que ce soit d'autre, qui va forger notre stratégie. Ce qui forge notre stratégie, c'est quelles sont nos propositions, quelles sont les attentes des Françaises et des Français, et comment on peut, justement, après toutes ces années de Macronie, et avec une montée inquiétante de l'extrême droite et de sa... de son idéologie nauséabonde, comment nous sommes en capacité de fournir un projet de société qui réponde à leurs attentes.
Eh bien, merci Diana Badiop, porte-parole du Parti Socialiste, députée des Yvelines. Si vous nous rejoignez sur Radio France Internationale, il est 18h46 en temps universel. Notre édition spéciale se poursuit suite à la condamnation pour détournement de fonds publics de Marine Le Pen, condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, et condamnée, évidemment, c'est ce qui interroge quant à sa participation à la présidence de 2027, condamné à 5 ans d'inéligibilité. Marine Le Pen qui s'est exprimée il y a quelques minutes pendant le journal télévisé de TF1, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle ne se retire en aucune manière de la vie politique, c'est ce qu'elle a déclaré, et elle lance un bras de fer avec les juges, puisqu'évidemment Marine Le Pen a annoncé son intention de faire appel, et elle demande que la justice se hâte pour que cet appel soit rendu avant la présidentielle de 2027, tout en mettant la pression sur les juges en dénonçant une décision politique. Marine Le Pen, on va l'entendre à présent, qui s'est donc montré, qui a souhaité en tout cas afficher un visage combatif ce soir.
Jordan Bardella est un atout formidable pour le mouvement, et je le dis depuis longtemps. J'espère que nous n'aurons pas à user de cet atout plus tôt qu'il n'est nécessaire. Mais en attendant, je suis combative. Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi. Je vais mener les voies de recours que je peux. Il y a un petit chemin, il est certes étroit, mais il existe. Je vais effectivement demander, de la manière la plus claire qu'il soit, que la décision d'appel intervienne, me permettant d'envisager une candidature à l'élection présidentielle. Moi, je serai toujours à côté des Français. Il y a des millions de Français qui croient en moi.
Voilà, Marine Le Pen, ce soir sur TF1, Virginie Martin, on vous retrouve. Marine Le Pen qui a évoqué cette option Jordan Bardella. Alors évidemment, tous les regards ont été tournés après le jugement du tribunal correctionnel de Paris vers le président du Rassemblement National pour savoir si désormais, eh bien, la tâche allait lui incomber. Il a annoncé une pétition. Jordan Bardella, à quoi ça peut ressembler? Quel peut être son rôle dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois au sein du RN?
Disons qu'il peut pas ouvrir, il peut pas s'engouffrer trop vite dans cette crise de leadership. Évidemment, ça serait enjamber trop rapidement Marine Le Pen, et ça serait extrêmement mal vu et assez déloyal. Il a lancé une pétition en effet qui s'appelle Sauvons la démocratie, je soutiens Marine et tout cela. Donc c'est important de faire bloc et de montrer cette cohésion, bien sûr, derrière Marine Le Pen. Néanmoins, il faut éventuellement que le RN, d'une manière plus global, se prépare de toute façon à avoir une seconde solution, parce que on comprend bien qu'on est en pleine crise de leadership, qu'on le veuille ou pas, qu'il y ait appel ou pas, qu'elle puisse se présenter en 2027 ou pas. Il faut bien encore mieux préparer Jordan Bardella, si ça doit être lui, parce que c'est pas non plus si simple, hein. C'est pas parce que Marine Le Pen lui a ouvert la voie que personne ne va vouloir s'y engouffrer et faire concurrence à Jordan Bardella. Maintenant, évidemment, il s'est beaucoup préparé, on le sait dans les meeting, à l'applaudimètre, il est presque supérieur à Marine Le Pen. Sur les réseaux sociaux, il fait un carton plein. Sur les débats télévisés, il s'est vraiment affirmé. Sur les européennes, c'est lui qui est allé au combat. Sur les législatives 2024 aussi, vous voyez. Donc, on peut pas dire qu'il ne soit pas tout à fait prêt à prendre la relève. Mais comme le dit Marine Le Pen, quand même, il faut peut-être pas jouer cet atout, entre guillemets, c'est elle qui le dit, plutôt qu'il n'est nécessaire. Parce que, d'abord, c'est un peu elle le matriarche, la matriarche de ce parti, d'une part, la légitimité, c'est elle qui l'a, elle a la légitimité clanique et familiale, ne l'oublions pas, c'est important au RN, et en plus, évidemment, l'inexpérience de Jordan Bardella va forcément, à un moment donné, être soulevée, surtout lors d'une présidentielle.
Mais évidemment, ce temps d'attente, ce temps de latence peut durer. Aurélien de Vernois.
Et puis Jordan Bardella, il a quand même un autre problème qui n'est pas encore majeur, c'est qu'une plainte a été déposée contre lui la semaine dernière, justement, une plainte qui est connexe à ce dossier des assistants parlementaires. On lui reproche d'avoir créé de toutes pièces des agendas pour justifier une activité d'assistant parlementaire auprès de l'eurodéputé Jean-François Jall, qui a été condamné aujourd'hui. Et cela pourrait, en effet, lui poser à lui aussi des soucis. Il faut savoir que les assistants parlementaires, lors de ce procès, il y a un certain nombre qui ont été condamnés à de l'inéligibilité. Alors, la plupart avec sursis. Mais malgré tout, ça pourrait être aussi être une épine dans le pied de Jordan Bardella. Je voulais également revenir sur la stratégie qui est mise en place là avec cette pétition, etc. C'est intéressant parce que il y a une vraie réflexion, je pense, du côté du Rassemblement National de se démarquer de ce que pourrait faire, par exemple, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même a des petits soucis avec les dossiers d'assistants parlementaires au Parlement européen. Alors que Jean-Luc Mélenchon, logiquement, voudrait passer par la rue pour protester, Marine Le Pen, le Rassemblement National, au contraire, disent « on va faire ça de manière pétitionnaire, de manière pacifique », comme ils le disent, c'est-à-dire qu'ils veulent passer par le chiffre, mais le chiffre enregistré par des pétitions, etc., plutôt que par la foule dans la rue. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, parce que ça montre aussi que Marine Le Pen ne veut pas du tout s'engager dans la voie qu'avait pu choisir Donald Trump lors de l'élection contestée de 2020, où il avait justement chauffé à blanc ses supporters, et on se rappelle de l'épisode du Capitole. Marine Le Pen aurait pu partir dans cette direction, pour l'instant, en tout cas, elle refuse de le faire.
Finalement, quand on évoque la Trumpisation, c'est dans un certain cadre, dira-t-on. On va appeler à nouveau Washington, Guillaume Nodin, l'envoyé spécial permanent de RFI aux États-Unis, car on a évoqué avec vous, Guillaume, la réaction d'Elon Musk qui avait dénoncé un abus du système judiciaire, mais il n'y avait pas encore eu de réaction officielle de Washington. C'est le cas.
Oui, c'est le département d'État qui juge préoccupante l'élimination, si on peut dire ça comme ça, de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle de 2027. C'est une réaction qui vient donc du département d'État. Je dois vous dire d'en savoir un petit peu plus, parce que pour l'instant c'est juste quelques bribes d'informations, mais c'est un changement, et ça je peux déjà vous le dire, par rapport à l'ère Biden, où on ne s'occupait pas vraiment des élections et de ce qui se passait dans les autres pays démocratiques. Là, manifestement, il y a un changement de ton de la part du département d'État quant à l'organisation des élections dans les pays étrangers.
Virginie Martin, jusqu'à quel point, finalement, je dirais, Marine Le Pen peut marcher sur les traces de Donald Trump ?
Je pense qu'elle n'en a pas intérêt. Comme je le disais tout à l'heure, et puis elle n'en a pas tout à fait l'ADN, vous voyez, elle a voulu absolument notabiliser. Celle qui a dit ouais. Il faut cliver, il faut créer le chaos, on est plutôt du côté de Mélenchon en France, vous voyez. Elle, dans la méthode en tout cas, elle n'est pas là-dessus. Premier point. Deuxième point qui différencie, c'est le programme économique. Donald Trump se dit dans un espèce de libéralisme à l'américaine, je ne sais pas trop comment l'appeler, ce serait trop compliqué de rentrer là-dedans, mais en tout cas, elle n'est pas sur cette ligne. Et d'ailleurs, Jordan Bardella est un petit peu plus proche.
C'est ce que j'allais vous dire.
Voilà, dit libéral à la Trump. Mais bon, libéral à la Trump, on pourrait en dire beaucoup, vu toutes les aides d'État dont il a bénéficié par le passé. Passons. Donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt du côté de Zemmour et de Knafo qu'on va trouver ce côté libéral économique, un petit peu plus Marion Maréchal sur les valeurs aussi, et Bardella sur la question libérale. Marine Le Pen, ça reste quand même le gaucho-lepénisme, il faut pas l'oublier, et ça, c'est pas très compatible avec Trump, d'une part. D'autre part, sa méthode, sa stratégie de notabilisation pour devenir un parti de gouvernement respectable, non plus. Donc vous voyez, c'est plus compliqué que ça. La Trumpisation, c'est quoi? C'est crier très fort, crier plus fort, c'est l'économie de l'attention aujourd'hui, c'est être plus fort dans les médias et aller marcher sur le Capitole. Sur la méthode, c'est pas tout à fait ça. Maintenant, c'est certain que s'il devait y avoir une polarité, vous voyez, avec Orban d'un côté, Poutine, Trump, Musk, etc., et que Marine Le Pen était emportée dans cela, ça ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour elle, parce que on serait, alors après, c'est ce qu'elle fait quand même aujourd'hui, hein, on serait dans la dénonciation de cet état profond, le deep state à l'américaine, voilà, cet état profond qui, soi-disant, serait plus fort que tout, la justice, la politique et le reste.
Eh bien, merci beaucoup, Virginie Martin, de nous avoir accompagnés. Nous sommes en ligne à présent avec Philippe Vigier, qui est député démocrate d'Eure-et-Loire du Modem. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je voulais vous poser la question sur la première réaction de Marine Le Pen ce soir dans le journal télévisé de TF1. Elle a dénoncé une décision politique, elle a dénoncé les pratiques, je cite, « réservées aux régimes autoritaires ». Est-ce que ça vous préoccupe, ces déclarations-là ?
Écoutez, moi, je ne vais pas commenter les déclarations de Marine Le Pen. Simplement, le sujet, c'est quoi ? C'est qu'il y a eu une sentence qui a été rendue aujourd'hui, expliquant qu'elle était inéligible pendant les 5 ans, donc la privant naturellement des élections présidentielles. D'abord, ça n'est que l'application de la loi qui a été votée en 2016, les lois Sapin 2 et 2017. Là où, je vous le dis très clairement, je trouve que la sanction est très violente, que chacun sait très bien qu'elle est candidate à l'élection présidentielle et qu'il n'y a pas la possibilité d'un appel suspensif. Elle peut faire appel de la décision, mais pour autant, on sait qu'il y a application immédiate de la décision qui a été prise par le tribunal. Et c'est là où il y a un vrai sujet, parce que dans le droit français, lorsque vous êtes condamné, eh bien, vous avez toujours une possibilité d'appel. Là, il n'y a pas d'appel. Alors, du moins, il n'y a pas d'appel suspensif. Elle peut faire un appel auprès du président de la cour d'appel, justement pour voir si ou non il y aura une abrogation sur cette décision, ou elle peut attendre un appel sur ce jugement. Mais pour autant, c'est l'application immédiate. Et puis, ce qui est quand même étonnant, c'est que vous avez pu observer que Louis Alliot, le maire de Perpignan, lui, il n'y a pas d'application immédiate de la sanction. Oui. Et que Mme Le Pen perd son mandat d'élu local et garde son mandat d'élu national. Donc ça veut dire aussi que le législateur que je suis, tiens à le dire, les juges ont appliqué la loi telle qu'elle a été votée. Il y a des imperfections dans cette loi et il faudra y revenir à une autre. Pour une raison simple, c'est celle de la proportionnalité des choses, ce qui a été rappelé par le Conseil constitutionnel. De ne pas pouvoir être candidate à l'élection présidentielle.
Philippe Vigier, vous êtes membre du Modem. Pourquoi le Premier ministre François Bayrou, selon vous, s'est dit troublé à l'énoncé du jugement ? Qu'est-ce que ça... Attendez, je vous pose la question. Annoncé du jugement, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et notamment que suite à cette déclaration de l'entourage du Premier ministre, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a dit « la séparation des pouvoirs n'est plus à l'ordre du jour ».
Non, mais la séparation des pouvoirs est à l'ordre du jour, mais il dit l'entourage. Quand c'est l'entourage, c'est pas le Premier ministre qui est exprimé. Le Premier ministre ne s'est pas exprimé directement sur la question. Donc, le sujet est clos. Le Premier ministre, il va pas commenter une décision de justice, surtout quand on est patron de gouvernement.
François Bayrou a évoqué, s'est exprimé avant le jugement.
Non, mais c'est ce que je peux terminer. Mais une fois de plus, je vous l'ai dit. Est-ce que vous connaissez d'autres décisions de justice dans lesquelles il n'y a pas d'appel suspensif? Ça n'existe pas. Et comme ça n'existe pas, moi, je n'ai pas attendu le jugement. Je l'ai dit chez vos confrères hier. Pour moi, ce sont les zones qui tranchent. Manifestement, c'est l'application de la loi Sapin 2. Mais j'étais parlementaire à l'époque. Il faut se rappeler que M. Cahuzac avait menti en direct à l'Assemblée nationale. M. Cahuzac, socialiste. Vous en souvenez ? Ministre du budget. Qui avait des comptes en Suisse. Hein, c'était bien pour la moralité et la transparence. Moi, jusqu'au bout, j'ai cru voyez, à son innocence. Bon, donc, il y a eu des textes qui ont été préparés dans l'urgence, dont on voit bien qu'ils ne sont pas complètement adaptés.
Eh bien, merci.
Le fait que, attendez, je ne remets pas en cause le fait qu'il y a eu naturellement 4 millions, je ne sais pas combien, sur la période, qui n'auraient pas dû être utilisés comme cela. Pour autant, vous n'avez pas d'autres juridictions dans lesquelles vous n'avez pas de possibilité d'appel.
Eh bien, merci Philippe Vigier.
Attendez.
C'est terminé. Merci maintenant. Beaucoup, vous avez votre temps d'antenne. Merci beaucoup, député démocrate d'Eure-et-Loire, membre du Modem. Merci à tous pour cette édition spéciale qui touche à sa fin. Donc, principale phrase, Marine Le Pen dénonce une décision politique après sa condamnation pour détournement de fonds publics. Merci beaucoup à Aurélien de Vernoy et à Jean-Baptiste Tondeur qui était à la rédaction en chef de cette édition spéciale. Bougez pas sur RFI.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Maladies émergentes et infections, quel défi pour la recherche internationale.
Mercredi.
Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain,
rediffusion de notre émission sur l'IA et la surveillance policière. Comment concilier liberté et sécurité?
Mercredi,
adapter les villes au changement climatique. Quelle coopération entre l'Europe et l'Afrique?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.